9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Bien le bonjour mes amis, en ce vendredi 28 février, Maître Serran vous salue. Une fois de plus, un événement a eu lieu cette semaine, événement qui démontre qu'il n'est pas bon d'être musulman en France, le fameux hijab de running. Qu'est-ce que j'apprends? Une grande chaîne de magasins a annoncé dans un premier temps qu'elle commercialiserait ce que l'on appelle le hijab de running et a renoncé après le tollé que ça a provoqué. Pourtant, un hijab de running, ça peut être sympa, pourquoi pas? T'es une femme, t'es pudique, tu veux pas qu'on voit tes cheveux. En même temps, tu me diras que même si t'as les plus beaux cheveux du monde, pour peu que tu aies une face de mouton, il n'y a pas de risque qu'on te drague, tu peux courir tranquille. Donc, je suis une femme. Hop, je mets mon hijab de running et je vais courir. Et ce, d'autant plus que comme 95% des femmes musulmanes, je suis en surpoids. Et j'ai besoin de courir, mon cher Philippe. Et là, mon pote, tollé dans la classe politique. En France, tu peux courir en string, mais pas en hijab. Alors, faut croire qu'on a les politiques les plus débiles du monde. Il y a des manifs depuis des mois, tous les samedis. Et nos politiques trouvent du temps pour se scandaliser sur la commercialisation d'un hijab de course. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre qu'une femme ait envie de courir avec un hijab ou pas? Bon, on trouve parmi les politiques qui ont aboyé cette semaine Dupont-Aignan, mais tu me diras que les déclarations de Dupont-Aignan, entre nous, on s'en balait. Mais pas que lui. Agnès Buzyn, ministre de la Santé, elle a dit, alors oui, la loi n'interdit pas le hijab de running, mais pas trop chaude pour la vente de cet article. Agnès Buzyn fait partie du gouvernement qui passe une grande partie de son temps à lécher le derrière des dirigeants des pays du Golfe pour faire du business, vendre des armes. Et là, évidemment, on n'est pas dérangé lorsque les femmes de ces dirigeants viennent en France avec leur voile, on leur dit pas, oh, en France, c'est la laïcité qui s'applique. La laïcité, arrête avec ta laïcité. Tu sais où je me la fourre, ta laïcité? Au fin fond de mes toilettes turques, mais ne peux
comprendre. Ah, c'est vrai que vous avez adopté, oui.
Voilà, cette allusion aux toilettes turques, mon cher Philippe, que les auditeurs fidèles qui ont écouté les précédentes émissions, podcast disponibles. Allez, je vais vous donner la parole, appelez le 01 53 48 3000 pour poser vos questions, que vous portiez un hijab ou pas, émission sous le contrôle de monsieur Philippe Robichon, le seul qui trouve qu'une femme en burkini et en hijab de running est une femme sexy. Beurre FM, c'est tout droit, c'est parti.
Maître Serran, vous deviez... Si ?
Ah bon ?
Voilà. Mais c'est le sujet de l'émission ?
Non, mais ça...
Est-ce
non,
que vous voulez qu'on en parle ?
Ça a l'air de vous surprendre.
Non, mais je vous fais des confidences et vous les rapportez à l'antenne. Enfin, ça vous dérange pas, Maître Serran ?
Non, c'est vrai. Bon. Je recommencerai plus.
Vous deviez nous parler du compte-rendu de votre visite au Salon de l'Agriculture.
Ben, alors, j'ai eu des rendez-vous avec certaines clientes, mais j'ai pas été...
Vous n'êtes pas allé ?
Au Salon de l'Agriculture, j'y vais samedi, Inch'Allah.
Ouais, parce que vos enfants ont été privés, hein.
Ouais, c'est vrai, mais je vais y aller ce samedi.
Bien, alors, Maître Serran, je veux dire que cette semaine, j'ai reçu fort tardivement le sujet de la semaine.
Donc oui, absolument, il y a une heure, je crois, quelque chose comme ça.
Donc, c'était un peu compliqué pour préparer.
C'est vrai, autant pour
moi. Et nous allons évoquer une question pour laquelle nous recevons de nombreux appels toutes les semaines, et pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc, la régularisation des ascendants, et là, Maître Serran, c'est pas d'astrologie que vous allez nous parler.
Absolument, parce qu'on avait eu un appel la semaine dernière. Et puis, tiens, d'ailleurs, j'ai reçu quelques mails pour dire que j'ai peut-être été un peu dur.
Mais je vous l'avais dit quand même.
Oui, c'est vrai.
Ouais,
Vous sentez les trucs, hein. C'est quelque chose de fou. Hein.
Non, j'ai dit, vous étiez un peu dur parce que il faut proposer une solution. Parce que c'est vrai que cette question, elle revient en permanence.
Je suis entièrement d'accord, mais je vous dirai pourquoi. Alors, la question est posée, elle est légitime, et je vous dirai par la suite la crainte pour les personnes qui sont concernées. Alors, vous avez des parents ou des beaux-parents qui, et souvent on nous dit, donc qu'on...
Ouais, donc, ascendant, qu'on définisse le terme, c'est quel niveau déjà de...
Les parents,
quel degré? Bon. Parents, grands-parents.
Ouais, après, au-delà, ils...
D'accord.
Hein, ils sont,
c'est pas cousin, voisin, tante.
Non,
parents et grands-parents.
Les grands-parents, alors si vous êtes marié, ça peut être les beaux-parents et autres, voilà. Hein, mais parents, grands-parents. Donc c'est vrai que la question est souvent posée, et de plus en plus d'ailleurs, on nous pose la question de savoir comment faire venir les parents et les grands-parents. Alors, il y a d'abord un préalable pour pouvoir entrer dans ce cadre. Encore faut-il que le couple ou l'enfant qui est sur le territoire français, il doit être de nationalité française. Donc ça, c'est important. Si vous n'êtes pas de nationalité française, ce que je dis là ne vous concerne pas. À partir du moment où vous êtes de nationalité française et que vous souhaitez faire venir donc ces membres de la famille, la démarche va se faire auprès des autorités consulaires. Donc vous avez le droit de solliciter donc un visa long séjour pour ascendant, mais on a évidemment toute une série de conditions à remplir. Le visa long séjour pour ascendant ne peut être sollicité qu'à partir du moment où vous allez justifier que depuis X années, vous participez financièrement à aider la personne concernée. Et quand on dit prouver que vous participez financièrement à aider la personne concernée, c'est relevé de compte à l'appui. Souvent, on me dit... Je remets de l'argent, alors là, j'allais presque dire de la main à la main. Non, ça marche pas, donc il faut qu'il y ait des traces comptables de tout ça, donc les Western Union et autres.
D'accord.
Donc à partir de ce moment-là...
Donc il faut que l'ascendant soit à charge.
Il faut qu'il soit à charge. Ça c'est important parce qu'on a évidemment des personnes qui sont à charge, mais qui ont pour autant, qui exercent une activité. Les autorités consulaires vont prendre ça en considération. Et on a une décision qui a été rendue il y a quelques temps où la personne concernée est un ancien policier, donc qui percevait l'équivalent de 100 euros par mois de retraite. Donc on a considéré évidemment que c'était insuffisant. Et donc que là, ça se justifiait. J'ai parfois des clients qui nous racontent ce type d'histoire, mais quand on leur pose la question de savoir dans quelles conditions financières vivent les parents, ce sont des conditions financières qui sont, j'allais presque dire, parfois même très aisées. Donc là, à ce niveau-là, c'est injouable. Il faut évidemment que la personne soit à votre charge financière. À partir du moment où vous réunissez ces conditions, on va vous demander légitimement de pouvoir justifier d'un domicile qui puisse permettre de recevoir correctement, donc cette personne. Donc là encore, si de par votre composition familiale, il n'y a pas de place chez vous, même si financièrement vous prenez en charge les parents, c'est injouable. Ça sert à rien de faire ce type de demande. Ce que nous disait la personne qui nous avait appelé la dernière fois, nous disait oui, mais il y a l'un des enfants qui vit encore sur le territoire algérien.
Et
ça aussi, évidemment, c'est un élément qui va être pris en considération. C'est-à-dire qu'on est dans l'optique où tous les enfants vivent en dehors du territoire algérien et pour peu qu'il reste un seul enfant sur le territoire algérien. Et quand bien même cet enfant serait, entre guillemets, un enfant ingrat qui ne s'occupe pas des parents, j'allais presque dire, c'est pas le problème des autorités françaises. Donc ça aussi, c'est une condition qui n'est pas évidente à réunir, mais ça se plaide. S'il reste un enfant sur place, il va falloir démontrer que c'est, ce que je disais tout à l'heure, un enfant ingrat ou alors qu'il y a une distance pas possible entre cet enfant et le ou les parents. Mais c'est vrai que c'est un élément qui est toujours pris en considération par les autorités consulaires pour vous refuser donc ce type de visa. J'ai commencé en disant que c'était un visa
long séjour.
Alors, on va pas faire semblant. Le temps où les visas
donc
long séjour,
c'est-à-dire quelle durée?
C'est au-delà de 3 mois, donc au-delà du visa en qualité de touriste. La dernière fois que l'un de mes clients a obtenu un visa long séjour, j'avais des cheveux. Donc ça remonte quand même à quelques temps, on est d'accord.
C'était sous Mitterrand.
Au moins.
Ah ouais, facile.
Au moins.
Ouais.
Et la difficulté, c'est ça, c'est que si dans les textes tout ça semble évident, que ça pose pas de problème, si vous êtes amené à réunir toutes ces conditions, il faut savoir que les autorités consulaires sont plus qu'avares pour donner ce type de visa. C'est ce qui fait que très souvent, 9 fois sur 10, ce sont des dossiers qu'on retrouve au contentieux. Donc, vous avez en règle générale un refus qui vous est notifié. Et quand le refus vous est notifié, il va falloir le contester, falloir aller devant la commission de recours, et éventuellement devant un tribunal administratif. Et tout ça se gère sur la ville de Nantes. Donc, c'est important, quand vous constituez le dossier auprès des autorités consulaires, de réunir tous les éléments pour prouver votre bonne foi devant la commission ou le tribunal.
Donc ça, c'est pour avoir le visa. Maintenant, comment est-ce qu'on obtient cette fameuse carte de résident, Maître Serran, qu'on appelle ascendant de ressortissant français?
À partir du moment où vous obtenez ce visa, une fois que vous êtes sur le territoire français, donc vous pouvez faire la démarche avec ce visa et on va vous remettre donc une carte de 10 ans.
C'est
donc,
10 ans.
Voilà,
c'est, ça,
c'est
voilà.
10 ans, hein, ouais. Donc c'est ça qui est important. C'est 10 ans et ça concerne également des personnes qui ne seraient jamais venues sur le territoire français. Donc une personne de nationalité algérienne et dans le cadre de cette situation, on réunirait les conditions. Quand bien même elle ne serait jamais venue sur le territoire français, elle pourrait bénéficier, si elle obtient évidemment ce visa long séjour, mais c'est le plus difficile à obtenir, elle pourrait bénéficier directement d'une carte de 10 ans. Donc ça fait partie quand même des éléments intéressant, mais je le redis, intéressant, sauf que dans la pratique, les visas long séjour sont de plus en plus... Ah, vous êtes enrhumé, je crois, mon cher.
Oui, maître Serran.
Ça tousse fort depuis tout à l'heure.
C'est la grippe algérienne.
Ouais. Oui, la difficulté, c'est que j'ai eu ça, et là, je me sens un peu mieux. J'aimerais ne pas l'attraper.
Bah, qui m'est là, voyez, regardez.
Ouais, d'accord.
Et comme vous avez pu le constater, mon casque qui devait être dans... était sur les oreilles de Kim.
Oh, bah, voilà.
Donc voilà.
Ouais. Et on attrape tout par les oreilles. C'est bien connu.
Entre autres.
N'est-ce pas?
Bon, maître Serran,
oui,
ce qui veut dire que si on n'a pas, on ne rentre pas sur le territoire français avec un visa de long séjour, qu'on rentre donc avec un visa de court séjour, on ne peut pas obtenir cette carte de résident d'ascendant de ressortissant français. C'est pas possible.
Non, c'est pas possible. Alors, souvent, on entend dire où les membres de la famille sont rentrés avec un visa touristique. Est-ce qu'on peut saisir les autorités préfectorales? Et après, vous avez le visa qui expire et autres. Techniquement, rien n'interdirait, mais vous avez bien compris qu'on va partir sur de très mauvaises bases. Je le redis, il ne faut pas oublier que le visa, quand il est délivré par les autorités consulaires, c'est un acte de confiance. Vous venez me voir, je vous donne un visa, vous me dites que je vais sur le territoire français en qualité de touriste. À partir du moment où vous restez au-delà de votre visa, ou alors vous venez ensuite dire « ben bon, je suis venu comme touriste, mais j'aimerais un visa d'installation », il est certain que c'est toujours mal interprété par les autorités préfectorales, par les autorités consulaires. Donc, c'est ça la difficulté, c'est pour ça que j'avais apporté cette réponse à l'auditrice qui nous avait appelé pour dire « bon, j'aimerais faire venir ma belle-mère ». Si on vient dans les conditions que je viens d'évoquer, il n'y a pas de difficulté. Voilà, il n'y a pas de difficulté. Mais comprenez bien que si vous faites venir un membre de la famille avec un visa en qualité de touriste, vous faites les démarches auprès des autorités préfectorales, on va vous le rétorquer, on va vous dire quoi ? Il faut que la personne retourne au pays et obtienne un visa long séjour.
Là, c'est mort.
Ben oui, c'est mort parce qu'en plus, à partir du moment où, allez, on va dire, vous dites bon, ok, je vais écouter la préfecture, je retourne au pays, je demande un visa long séjour, mais vous êtes blacklisté après, c'est terminé. Donc la difficulté, c'est qu'on a des personnes qui sont sur le territoire français très souvent avec un visa touristique, visa donc qui était expiré. On fait des procédures pour essayer de les régulariser, hein, ces ascendants de personnes de nationalité française, mais vous comprenez bien que la préfecture n'a pas forcément envie de nous faire plaisir, qu'on va contester devant un tribunal administratif, il n'y a pas de difficulté, ce sont des procédures qui sont très longues, et c'est important de faire comprendre, j'allais dire à nos anciens, de leur faire comprendre que la procédure va être longue, et par définition, on a affaire à des personnes qui sont impatientes et c'est légitime. Quand j'ai des personnes d'un certain âge qui viennent me voir et qui me disent « Maître, le pays me manque, j'aimerais retourner dans ma maison, vous savez, là-bas il fait beau, ma maison fait 200-300 mètres carrés. » Donc c'est sûr que quand on compare ces conditions à leurs conditions sur le territoire français, on a de la peine pour ces personnes. Parce que très souvent, il n'y a pas 1000 options. Alors soit on persiste et puis... Je dis pas qu'on n'obtient jamais gain de cause. On obtient parfois gain de cause, mais tout le temps, ce serait faux de le dire. Et on a parfois des personnes d'un certain âge qui dépérissent, qui sont tristes, qui ne comprennent pas pourquoi une procédure est aussi longue. Donc, et c'est ce que je disais la dernière fois à cette demoiselle, il faut pas faire venir les parents ou grands-parents pour vous, pour que ça vous fasse plaisir à vous. Faut vraiment leur poser la question, vraiment discuter avec les parents ou grands-parents. Et ce, d'autant plus qu'on a des dossiers, on a les parents, grands-parents qui viennent avec un visa touristique et qui repartent. Et au bout d'un moment, quand ils se maintiennent, eh ben voilà, ils sont blacklistés et même le visa en qualité de touriste leur est ensuite refusé. Donc, faut faire aussi attention à ça. Il faut pas salir son dossier.
Donc, si j'ai bien compris le message, Il faut respecter donc la procédure et faire cette demande de visa long séjour.
Ben sinon,
si on veut espérer par la suite être régularisé.
Sinon, on s'engage dans des procédures qui sont très très longues et qui parfois n'aboutissent pas. C'est le pire que tout.
Vous savez que les gens, quand ils entendent parfois ça n'aboutit pas, ils entendent aussi que parfois ça aboutit.
Mais c'est
donc
vrai.
Ils tentent le coup.
Ah non, mais on
voilà.
Peut, encore une fois, on peut tenter le coup et ce serait pas sérieux de vous dire que qu'on n'engage que des procédures, on est sûr à 100%, ça n'aurait pas de sens. On peut tenter le coup, mais au bout d'un moment, il faut s'intéresser à la personne puisqu'a priori on fait ça pour faire plaisir d'abord à la personne et pas à soi. C'est ça la difficulté.
Bien, vous pouvez poser vos questions à Maître Serran dans un instant. Je vous rappelle le numéro du standard auquel on peut vous appeler Maître Serran. C'est le 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
À votre service, reviens dans un instant. 9h, 10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Posez vos questions à Maître Serran, 01 53 48 3000, direction Toulouse, Maître Serran, et, mais Serran-e, et c'est Nazim-e qui vous appelle.
Souvent,
Nazim, bienvenue.
Des auditeurs
oui,
de Toulouse, hein.
Bonjour Philippe, bonjour Maître Serran.
Bonjour Nazim.
Vous faites, je vous appelle pour une petite question s'il vous plaît. Je viens de déposer un dossier pour une naturalisation. Par contre, je me suis aperçu qu'apparemment j'avais un souci. J'étais condamné il y a environ, on va dire, 5-6 ans de ça, à une peine de 1 mois avec sursis pour violence conjugale, entre parenthèses.
Ah, ouais.
Voilà. Et l'enquêteur m'a dit qu'il y a une forte possibilité d'un refus, sachant que je n'ai jamais eu de toute ma vie, jamais de problème. C'est la seule et unique tâche de toute ma vie.
C'est une tâche de trop. Il a au moins l'honnêteté de vous dire ça. Et honnêtement, quand bien même, enfin, vous voyez, s'il y avait eu une condamnation de cette nature, qui est pas, ça révolutionne pas votre casier judiciaire, mais je dis n'importe quoi, pour un vol ou une broutille, la difficulté, c'est que vous me parlez de violence.
Oui.
Et en particulier à l'égard de madame.
Exactement.
Eh ben, ça fait partie quand même des éléments qui sont pris en considération très sérieusement pour débouter les personnes de leur demande de naturalisation. Ce qui veut dire qu'il y a, alors, il y a d'abord un préalable. Il serait peut-être bon éventuellement d'engager une procédure pour, on appelle ça une requête en effacement casier judiciaire, pour entre guillemets laver votre casier judiciaire. Pour autant. Oui. C'est pas toujours suffisant. Il faut savoir que même quand on a un casier judiciaire, entre guillemets, nettoyé, ce genre de condamnation, d'infraction, apparaît, on l'a évoqué souvent à cette antenne, dans un fichier qu'on appelle Judex, et ce fameux fichier, donc, qui recense tout et n'importe quoi, donc même si votre casier judiciaire après cette démarche est nettoyé, on pourrait quand même mettre ça en avant. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas contester. Vous voyez, on peut considérer que ce sont des faits qui sont anciens, que depuis, vous menez la vie la plus normale du monde. Mais en règle générale, quand on a ce genre de condamnation, ce sont des dossiers qui se terminent devant une juridiction. Et il n'y a qu'un magistrat qui pourrait dire si la décision prise par l'administration de vous refuser la naturalisation en invoquant cet argument, est-ce que c'est une mesure qui serait peut-être quand même disproportionnée? Ça ne mérite pas non plus d'être blacklisté toute la vie pour obtenir la naturalisation. Mais selon moi, monsieur, oui, vous risquez fortement d'avoir un refus.
C'est ce qu'il m'a dit, mais bon. Sachant que je n'ai jamais eu de problème, j'ai toujours été clean.
On est en train de parler de ce problème-là. C'est-à-dire, comprenez bien, il n'y a pas besoin d'avoir deux ou trois condamnations.
Ouais,
Une seule suffit. C'est ça la difficulté. Il n'y a pas besoin d'avoir un passé de délinquant. Encore une fois, il a eu l'honnêteté de vous le dire. Et a priori, oui, ça va plutôt aller dans ce sens-là. Après, vous verrez, si vous estimez que c'est injustifié, vous pourrez éventuellement contester la décision. Mais c'est un dossier qui se terminera, si vous voulez aller jusqu'au bout, devant une juridiction, c'est certain.
Il y a moyen de faire un recours gracieux auprès du préfet
Bien sûr, une fois que vous aurez la décision, vous avez le recours gracieux, recours hiérarchique, vous pouvez aller devant une juridiction, un recours contentieux. Donc oui, tout ça peut être fait. Enfin, encore une fois, je dis pas que recours gracieux hiérarchique ne serve à rien. Il faut savoir que quand vous faites ce type de recours, vous retournez devant l'administration, alors que c'est l'administration qui a examiné votre dossier et qui a rendu une décision. C'est honnêtement, mais même moi je le vois à mon niveau, hein, c'est rare qu'une administration se déjuge en disant bon bah d'accord, peut-être qu'on a mal apprécié ceci ou cela. Ils font pas beaucoup d'efforts de cette nature. Ça peut arriver, mais on est dans le domaine du rarissime. Les chances entre guillemets de succès sont plus importantes devant un tribunal.
Ok, ça marche. Merci beaucoup, Max, c'est gentil à vous.
Merci à vous d'avoir appelé.
Merci, au revoir.
Merci, Nazim. Alors, c'est Hakim qui est avec nous. Hakim est à Saint-Étienne. Hakim, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, M. Serran.
Bonjour, Hakim.
Alors, voilà, c'est un point épineux, là.
Permettez-moi juste une seconde, je vais saluer Hakim, qui est aussi mon frère. Alors, pas notre auditeur, mais j'ai un frère qui s'appelle Hakim. Voilà, c'était
ça
juste pour le signaler. Donc, Hakim, je vous écoute.
Oui, voilà. Alors, en fait, moi, je suis dans la Loire, et puis mes enfants sont en Algérie. Quand ils étaient mineurs, j'avais demandé leur CNF, certificat de nationalité française, que un l'a eu et l'autre n'a pas eu sous prétexte que dans une semaine allait être majeur, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire une semaine avant. Bon, y a pas de souci. Depuis 2015, on a entamé une procédure pour demande CNF pour un majeur.
D'accord.
Pour une demande de CNF,
d'accord.
Pour mon deuxième garçon. L'autre, il l'a eu. On est en mineur.
D'accord.
Mineur. Bon, le souci est que depuis 2015, bon, on a eu des échanges avec Château des Rentiers et tout. Et le plus beau, c'est que mon fils, il est inscrit sur les registres des étrangers nés établis hors de France à Oran. Mon fils a eu le attestation de recensement. Service national pour ici le centre de Perpignan. Mon fils a voté aux dernières élections et c'est ça le problème. Voilà, je comprends pas.
Mais c'est-à-dire que de ce que vous êtes en train de me dire, enfin sauf erreur, j'ai l'impression qu'on parle d'une personne qui a une nationalité française.
De moi, oui.
Ouais.
Oui.
Bon, et la demande qui a été faite la demande a été formalisée pour votre fils ou pas?
C'est-à-dire?
Ben vous m'avez pas dit que vous avez fait une demande de CNF pour votre enfant.
Depuis 2015, on a reçu la référence, le numéro de référence.
Alors ça, d'accord. Mais depuis 2015, il n'y a pas eu de retour.
Il y a eu un retour en 2017.
Ouais.
Quoi qu'il leur fallait quelques documents de déposer.
D'accord. Bon, alors donc c'est vrai que 2 ans pour dire faut compléter le dossier, mais bon. Donc on vous a demandé de le compléter.
Je l'ai complété. Qui a été faite. Et depuis, je fais des lettres de relance.
Ouais.
Je fais de la relance au niveau de Château des Rentiers, avec accusé de réception. Je reçois l'accusé de réception, mais en contrepartie, il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire que ça va faire 2 ans qu'il n'y a pas de réponse. 2017-2018.
Alors, c'est vrai qu'ils ont pris un retard pas possible hein, au niveau de ce service.
Oui,
alors maintenant, c'est plus au niveau hein, du Château des Rentiers, c'est le service de la nationalité.
C'est un drôle de nom, ça, Château des Rentiers.
Oui, c'est vrai. Ouais. Maintenant c'est au niveau du tribunal de Paris, donc à la porte de Clichy. Donc le service est là-bas. La difficulté, monsieur, c'est que c'est vrai que à partir du moment où ils réceptionnent les éléments et même si vous n'avez pas de retour, ce serait pas sérieux de ma part de vous dire ça pourrait éventuellement correspondre à un refus. C'est faux. Alors peut-être l'option qui consisterait, je dis pas que ça va forcément marcher, à rappeler un peu votre historique, parce que la demande initiale en tout cas est quand même assez lointaine, à rappeler l'historique et en leur indiquant que peut-être, et qu'à défaut de retour, vous pourriez envisager un recours devant le tribunal. Je dis pas que ça marche à tous les coups. Parce que, encore une fois, je ne dis pas que c'est un service de feignant, c'est le seul service pour les personnes qui demandent la nationalité et qui demeurent en dehors du territoire français. Donc c'est vrai que c'est un service qui travaille beaucoup, il y a beaucoup de retard. Donc même si les délais que vous me donnez me semblent, moi, un peu, entre guillemets, exagérés, mais avant peut-être de déclencher les hostilités, il faudrait éventuellement, alors soit vous refaites une nouvelle relance, soit passer peut-être aussi, même si c'est pas obligatoire à ce stade-là, peut-être par un confrère. Je dis pas que le fait de recevoir un courrier en tête d'un avocat va bouleverser la donne, mais ça peut quand même aider parfois à obtenir une réponse, alors positive ou négative, mais au moins peut-être pour avancer. Mais c'est vrai qu'à ce stade-là, il y a pas mille options. Hein. Donc c'est, vous êtes, enfin avec ce service-là en tout cas, on est tributaire de leur retour ou non-retour. Bon, encore une fois, ça vaut peut-être le coup de peut-être de les relancer, alors avec un confrère ou pas, mais avant de vous retrouver dans une procédure qui après, devant un tribunal de grande instance, est une procédure qui est quand même très longue, et devant le tribunal de grande instance, contrairement donc à la demande de CNF qu'on fait classiquement, devant le tribunal de grande instance, l'avocat est obligatoire. Donc là, pour l'instant, votre avocat n'est pas obligatoire. Ça peut être conseillé. Parfois, ça permet de faire avancer les dossiers. Donc, pensez-y quand même.
Oui, mais juste une petite question.
Bien sûr.
Est-ce le fait qu'il soit inscrit sur le registre, les registres consulaires, le fait qu'il ait une carte consulaire, le fait qu'il a une carte d'électeur, le fait qu'il reçoit une attestation du recensement de Perpignan, est-ce logique? Je comprends pas.
Ce serait des éléments qui pourraient aller dans votre sens.
Ben oui.
Vous voyez, non, mais on est d'accord. Donc, oui, est-ce que c'est logique le fait de dénoncer tout ça et de dire que manifestement il n'y a pas de retour sur cette demande de CNF? Évidemment que la machine est grippée à un certain niveau. Mais même si je vous dis, ben non, monsieur, c'est pas normal. Bon, entre nous, vous voyez, ça changera rien. Par définition, je considère que l'histoire que vous me racontez n'est pas normale. Maintenant, une fois que je vous dis ça, je vous ai pas dit grand-chose, donc nous, on va répondre en droit, je le redis, ça vaut peut-être le coup, même si l'avocat n'est pas obligatoire, peut-être de faire cet effort-là et de vous adresser à un confrère. Et après, voilà, si effectivement vous avez une réponse négative, ou alors si le service ne bouge pas une oreille, dans ce cas-là, le confrère fera le nécessaire pour continuer le dossier.
Et je peux m'adresser à n'importe quel confrère?
Ah, bien sûr, il n'y a pas de difficulté en la matière. Hein.
D'accord.
Ouais, complètement.
D'accord, c'est gentil. Je vous remercie, monsieur.
Merci à vous.
Merci, Hakim.
Au revoir, merci.
Voilà, et on a pu vérifier que votre frère vous écoutait à la radio, Maître Serral.
Je vous confirme qu'à la seconde...
Illico Presto, vous prononcez son prénom, il vous renvoie un message.
Merci, monsieur.
Ah ouais, ouais. En fait, votre frère vous appelle monsieur.
Ah oui,
mais j'ai cru qu'avec moi qui vous appelait monsieur, Maître Serral.
Entre nous, on aime bien...
les titres.
Ben oui.
Ah, c'est du taquinage.
Ben oui. Bien. Donc, Hakim, je t'embrasse puisque tu m'écoutes.
Alors, si vous voulez appeler Maître Serran, vous pouvez l'appeler après l'émission, parce que si vous avez, chocottes, vous êtes trop timide pour parler à Maître Serran à l'antenne.
Ouais.
Ce que je peux comprendre, vous pouvez l'appeler sur son téléphone portable.
C'est vrai. 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Et puis, toutes celles qui veulent envoyer un message de réclamation à Maître Serran parce qu'elles sont offusquées par ses chroniques, vous pouvez lui envoyer un petit mail.
Ou des photos.
Oui.
Ou des photos.
Ou des photos aussi.
Sur Maître. Serhan, ouais. Serhane, @gmail.com.
Voilà, et dans un instant, vous continuez, Maître Serhan, à répondre aux questions des auditeurs de Beurre FM au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
À votre service, reviens dans un instant. 9h, 10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Maître Serhan répond à vos questions juridiques au 01 53 48 3000. Pourquoi riez-vous, Maître Serral? Là, vous êtes.
Mais pourquoi je ris?
Parce que vous êtes drôle.
Ouais, déjà. Ouais. Mais on le dit aux auditeurs?
Non.
Ce que vous m'avez proposé?
Non. Oui, si vous voulez,
ouais. Un voyage casse-cou.
Mais c'est pas un voyage casse-cou, je vous dis.
C'est pour aller où?
C'est pour faire une opération humanitaire.
Ouais, où ça?
Au Bangladesh.
D'accord. Donc le pays le moins sécurisé du monde. C'est-à-dire que dire, Maître Serral, allez-vous suicider, que ça
vous pouvez aller faire de l'humanitaire à Monaco, si vous voulez.
Ah, bah ouais.
Mais ils ont moins besoin de vous à Monaco.
Ouais, ça serait sympa.
Voilà.
Ouais.
Alors qu'au Bangladesh, on va vivre une expérience extrême. Et je suis sûr qu'on pourra emmener des gens avec nous.
Ouais.
Vous verrez. Et au moins, on servira à quelque chose.
Non, mais je sers à quelque chose.
Moi, je sais. De toute façon, quand je vous vois, Maître Serral...
Laisse Maître Serral tranquille.
Voilà. Voix de la sagesse.
Il restera à Paris.
Voix de la sagesse.
Vous vous ennuyez à Paris. Alors que
non,
vous savez que.
D'accord, on n'est pas obligé d'aller au Bangladesh pour dire tiens, je m'ennuie à Paris.
Non, c'est pour être utile à des gens. C'est différent.
Ouais.
Il faut quitter votre confort parisien, Maître Serran.
J'ai peur. D'accord. Quoi, Maître Serran?
Non, mais moi aussi. C'est ça qui me fait
mais
peur.
Mais non, moi, j'ai...
C'est un gourou, ce type. Non, non, mais il me fait peur.
Gourou, je vous en présenterai d'autres. Allez, tiens, on va à Toulouse. Taïeb est avec nous. Taïeb, bonjour et bienvenue.
Oui.
Oui, allô? Taïeb. Oui, bienvenue.
Oui, bonjour, merci. Moi, je vous appelle pour mon frère qui a eu un refus de visa d'installation. Alors, et on lui demande, vous n'apportez pas la preuve de votre intention de mener une vie commune avec votre conjoint.
Ça sent le mariage bidon, quoi.
Ouais.
Ouais, ça veut dire ça. Alors,
ça veut dire que lui, il est rentré en visa, il est rentré par... par la Grèce, son visa, depuis 2011. Et après, en 2016, il s'est marié. Il a obtenu un titre de séjour, comment on appelle ça, une admission au séjour exceptionnel.
Ouais, non, mais continuez, hein, parce que sinon, on va être dimanche, là. Mais allez-y, allez-y.
Voilà. Et après, il est parti alors, à la préfecture, on lui a refusé. On lui a refusé de lui a dit que vous n'apportez pas de preuve d'entrée en France. Donc, il lui faut un visa. Et ce qu'il a fait, c'est que là, en 2018, il est parti en Algérie.
Ouais.
Il a fait la demande sur place. Et il a eu un refus. Un refus, comme quoi, qu'on lui, voilà, vous n'apportez pas la preuve.
Ouais.
Alors, c'est quoi la solution et qu'est-ce qu'il faut et comment, pourquoi, tout ça?
Bah, la difficulté, c'est que à partir du moment où ils ont un doute sur la nature du mariage, ça va être très difficile de leur enlever ça de l'esprit. Il est marié depuis combien de temps, votre frère?
Depuis 2016.
D'accord. Est-ce qu'ils ont des enfants ou ils ont essayé d'avoir des enfants?
Non.
Alors, non, pourquoi je vous dis ça? Ouais, oui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que très souvent, quand on a ce genre d'argument en disant... alors, ils vous l'écrivent pas comme ça, mais on voit bien que eux considèrent que ce mariage est complètement artificiel, c'est-à-dire simplement pour obtenir des papiers. L'un des arguments que peuvent avancer les avocats, c'est dire non mais attendez, ils ont un enfant, ou alors ils ont essayé d'avoir des enfants. Donc c'est ça fait partie quand même.
Elle est plus âgée que lui.
Ouais, bon alors donc il faut tout dire. Alors plus âgée de combien?
Voilà, peut-être 20 ans de plus.
Ah oui, alors là effectivement, que, sans les taxes.
Voilà, il faut qu'il reste au pays, c'est injouable. Enfin, vous comprenez bien que, je le redis, je prends toujours cet exemple. Il n'y a que pour Macron que ça peut marcher, ce décalage entre l'âge de madame et l'âge de monsieur. Pour des personnes qui sont dans la situation de votre frère, le premier truc qu'on va regarder, vraiment le premier, c'est qui est le plus âgé. Alors, je dis pas qu'à partir du moment où madame est plus âgée que monsieur, c'est injouable. Mais là, l'écart est quand même important. 20 ans, vous me dites?
Oui, 20 ans, ouais.
Bon, je sais que c'est dans les vieilles marmites qu'on trouve les meilleures soupes, mais là, hein, là, la soupe, c'est terminé.
Alors là, Maître Serran, je vois pas du tout.
Non,
non.
20 ans d'écart, c'est chaud, ça. Hein. Mais,
S'ils s'aiment.
Oui, d'accord. Bon, on peut être sérieux, mon cher Philippe. On peut être sérieux.
Ouais. Elle est partie en Algérie, sont partis au consulat tous les deux.
Ouais.
On leur a dit qu'il fallait faire un recours à Nantes et tout ça.
Ah non, mais sur le principe du recours, il n'y a pas de difficulté, bien sûr. C'est un refus, ça se conteste. Je dis juste que ça va me sembler quand même honnêtement et objectivement très difficile. Alors, sauf peut-être à apporter des preuves comme quoi, avant le mariage, ils se connaissaient, ils entretenaient déjà une relation. Enfin, on va
apporter des preuves qu'ils habitaient ensemble, qu'ils avaient le bail de Nantes, qu'ils avaient des factures bien avant le mariage.
Ouais, mais après, c'est au niveau du timing. C'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, mais si vous dites, écoutez, oui, on était ensemble, et puis vous présentez des factures en disant 3 mois avant, on se fréquentait déjà. Donc, ouais, il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Et franchement, c'est terrible parce que il y a probablement des mariages sérieux, même si madame est beaucoup plus âgée que monsieur, évidemment, ce serait pas sérieux de dire le contraire. Mais vous avez bien compris que là, votre frère part de loin. Il a quel âge, votre frère?
Il a 34.
Ouais, d'accord. Ouais.
34 ans, ça... et en plus il bossait, il avait des fiches de paye.
Bon, ouais. Ça, pourquoi il s'est marié avec, avec une femme aussi âgée alors, s'il bosse et tout? Il a pas trouvé
oui,
mieux.
Bon, c'est quel problème? On a fait une demande par, vous savez, par le travail régularisé.
Ouais.
Parce que, il travaille quand même depuis 2011. Il a des
ouais.
payes. Il a. En plus, je l'ai fait rentrer associé dans ma société.
Bon, d'accord. Donc a priori, on se dit et, que tous les éléments sont réunis.
Ils sont réunis. Ouais. Si vous voulez, il bossait. Il avait des avis d'imposition et
puis,
des impôts. Et tout ça, sauf qu'on a obtenu pareil, donc le titre de séjour exceptionnel, mais on lui demande toujours le visa d'entrée.
Non,
donc
mais ça, là, c'est normal. Ouais, ça, c'est normal. Mais voilà. Non, je dis, bon, après, je vous crois volontiers. Si vous me dites que c'est un mariage d'amour et tout ça, je vous crois volontiers.
Ouais,
mais
parce que ça arrive aussi, quand même.
Ouais, hein, ouais, d'accord. Ouais. Dans, je crois que c'est dans les films américains, on voit ça.
Non, ça arrive aussi.
Oui, non.
Ou chez Disney. Mais ça me semble très difficile, franchement.
Aujourd'hui, que ce soit amour... au vrai ou pas, et voilà le problème. Bah, et même
bah
si
là, pour l'instant, ils considèrent que c'est faux.
Et ben, si c'est faux, alors ils font comment? Il faut les divorcer, il faut les séparer, il faut les...
Non, mais monsieur, c'est pas l'État français de vous divorcer. Non, mais c'est toute la difficulté. Si la France dit non, moi j'ai un doute, alors oui, fondé ouais. ou pas, peu importe. La France va pas obliger votre frère à divorcer. Après, c'est votre frère. Il divorce ou il divorce pas.
Non, mais je dirais, divorce comment? Et si, là-bas, il faut qu'il fasse la demande, il faut que... Ils vont pas rester comme ça.
Mais madame, elle est de quelle nationalité?
Elle est française.
Bon, elle est pas au pays, là, madame.
Mais non, elle
non,
travaille.
Non, ben, qu'elle engage la procédure. Mais si monsieur ne peut pas venir... Alors, ce qu'on fait parfois, mais là, honnêtement, ça passera pas. Quand on a un client qui est au pays... Et quand on a une oui. procédure qui le concerne, c'est-à-dire oui. avec une convocation et tout ce qu'on veut, c'est-à-dire que, imaginons, madame engage une procédure et autre, alors elle pourrait d'abord engager une procédure en Algérie, ce serait possible, hein. Alors elle a le droit de divorcer au pays. Donc un, c'est déjà oui. un argument pour que la France dise celui qui veut divorcer, il a qu'à divorcer au pays. Mais quand bien même elle engagerait une procédure sur le territoire français, elle pourrait... communiquer la convocation à votre frère qui va au consulat pour dire bah écoutez j'aimerais venir en France j'ai une procédure de divorce il y a un juge français qui veut me voir
oui.
dans certaines procédures ça fonctionne compte tenu de ce que vous êtes en train de me dire on est dans le domaine du peu probable c'est-à-dire c'est peu probable que les autorités consulaires lui fassent confiance dans le sens où ok monsieur vous allez voir le juge et puis vous repartez tout de suite donc oui. ça me semble difficile.
C'est difficile.
Ah ouais, mais franchement, c'est pour ça. Après, je le redis encore une fois. Bon, je vous taquine sur cette histoire de décalage d'âge, mais j'ai tout eu. On a des gens qui se sont mariés avec des femmes beaucoup plus âgées, mais voilà, c'était volontaire et c'était voulu et c'est l'amour. On en a d'autres qui viennent me dire, bah maître, c'était juste pour les papiers. Et là, je leur dis, enfin, faut être un peu débile. C'est-à-dire que si c'est pour les papiers, si c'est artificiel. Autant, entre guillemets, alors pardon pour les femmes d'un certain âge, mais essayez de prendre une femme qui, comme dit Alot, même si elle est plus âgée que vous, qui dépasse pas 1, 2, 3 ans, mais pas plus. Sinon, directement, l'administration française va vous avoir dans le viseur. C'est ça la difficulté.
Oui, mais c'est ça, oui. Après, ben oui. quand on part, par exemple, au recours à Nantes, ça serait quoi si on fait une procédure?
Ben, selon moi... on vous dira, en tout cas, le tribunal dira que ça sent plutôt le mariage artificiel.
Oui, qu'on apporte les preuves et tout ça.
Non, mais, monsieur, si j'étais le magistrat, je pourrais vous dire, bah tiens, vos preuves sont sympas, je vais vous donner raison. Je vous dis juste que, compte tenu de ce que vous me dites, malgré les preuves, franchement, ça me semble difficile d'obtenir gain de cause. Sérieusement.
Voilà, Taïeb, ce que pouvez vous dire, Maître Serrane, merci pour votre appel. Alors, nous avons Mounir qui est avec nous, et Mounir nous appelle de Troyes. Mounir, bonjour et bienvenue.
Allô, bonjour.
Oui,
bonjour,
bienvenue, Mounir. Merci de votre patience, Mounir.
Ouais, pas de souci. C'est quoi que je voulais vous dire? Je voulais vous demander, en fait, je vous appelais pour une affaire me concernant, mais j'arrive pas à vous joindre. Du coup...
vous parlez avec moi, hein.
Ouais, votre messagerie, elle est pleine. Moi, en fait,
ah, d'accord, sur le portable, pardon, j'avais pas compris.
Non, moi je voulais vous prendre comme avocat. Ouais. Du coup, je voulais parler avec vous du dossier, mais j'arrive pas à vous joindre.
Vous savez ce que vous allez faire, Mounir? Vous allez laisser vos coordonnées hors antenne et Maître Serrane vous rappellera. Est-ce que ça vous va comme ça?
Parce qu'il a du succès. Il y a plus de place pour sa messagerie.
Bon, il faut que je prenne un deuxième ou un troisième téléphone, je crois.
Je pense.
La radio peut me financer ça?
Oui. À 51,10.
Bon, mais au secours. Mais non, dans ce cas-là, je peux vous rappeler tout à l'heure, Mounir, si vous souhaitez.
Ouais, ça serait gentil.
Ouais, bah écoutez, je vous appelle plutôt en début d'après-midi. Ouais. On fait comme ça.
On fait comme ça.
Ouais.
C'est gentil, merci.
Ah merci, Mounir. Alors, nous avons Noria qui est avec nous. Noria, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Alors, Maître Serane vous écoute, Noria.
Je voulais en fait juste le remercier comme je lui avais laissé un message et il m'avait vraiment conseillé. Avant, j'avais vu beaucoup d'avocats, ils m'ont vraiment démoralisé et je voulais le remercier. Je voulais remercier aussi la chaîne Beurre FM de m'avoir donné l'opportunité de le connaître.
Bien. Et est-ce que Maître Serane, vous allez faire appeler toutes vos cousines?
Non, je vous promets que...
Ou toutes vos sœurs?
Ah, d'accord. C'est-à-dire que quand on dit du bien sur moi, forcément une cousine ou une sœur.
Ah oui.
Non,
ah
bon. Non, c'est la jeune fille que sa grand-mère, elle lui avait trafiqué les papiers. Je ne sais pas si vous
vous rappelez. Ah oui, bah oui. Ouais. Alors, hein? Donc,
vrai.
Et là, on répond quoi?
Bravo.
Je ne suis pas sa cousine, non?
Ben non, je vous taquine, Noria. On a tellement pas l'habitude que les gens appellent pour dire que Maître Serane est gentil que, vous voyez, on s'inquiète.
Au secours. Même quand on dit des gentillesses, vous réussissez à retourner ça, quoi. Merci, ça fait plaisir, en tout cas, d'entendre ça.
Voilà, ben, franchement. Merci beaucoup. Et ben, j'attends encore votre rendez-vous.
Et ben, dans ce cas-là, pareil, je vous passe un coup de fil et on se fixe un rendez-vous.
Merci beaucoup, ouais. Au revoir.
Merci,
alors,
Noria.
Alors, on va noter le numéro et je vous appelle tout à l'heure sans faute.
Voilà.
D'accord.
Bah, vous avez un vendredi très, très occupé, Maître Serane. Alors, Bélaïde est avec nous, Bélide est avec nous au 015. Bélide, bienvenue.
Bélide ou Bélaïde?
Alors, c'est Bélide ou Bélaïde? Bélaïde.
Ah.
Alors, Bélaïde et...
Ouais, je crois que...
Alors, c'est ni l'un ni l'autre. Alors, bonjour, est-ce que vous m'entendez?
Qui que vous soyez.
Ouais. Parce que tout ça est bien joli. Sinon, ce que vous allez faire, on va intercepter un appel au hasard. 01-53-48-3000, bienvenue. Allô?
Allô, oui.
Oui, vous êtes à l'antenne. Quel est votre prénom?
Hadj, H-A-D-J.
Voilà, Hadj. Voilà, Hadj. Bienvenue. Maître Serane vous écoute.
Tout d'abord, bonjour. Je voudrais...
Juste une seconde, Hadj, et après, je vous reprends. La personne qui devait me laisser son numéro de téléphone à l'antenne a raccroché. Donc, ça va être difficile, ou alors qu'elle m'envoie éventuellement son numéro de téléphone par SMS.
Noria, d'accord.
Voilà.
Alors, Hadj.
Hadj, on vous écoute.
Oui, maître. Tout d'abord, c'est concernant un gars de ma famille qui est venu en France. Donc, il s'est marié en 2013 en Algérie avec une cousine à lui. Et puis, il a eu son visa comme famille de Français.
Mmh.
Il est rentré donc en 2015, en mars 2015. Sauf que quand il est rentré en France, il est resté chez cette famille-là, chez son épouse et sa famille. Pendant 4 ou 5 mois chez eux, à la maison, à leur adresse.
Ouais.
Et ils l'ont jamais emmené à la préfecture pour faire sa demande de titre de séjour.
D'accord.
Et pendant ces 6 mois-là, il y a eu des problèmes entre eux, donc il s'est énervé, il est sorti de la maison. Il leur a dit, moi je suis pas venu pour être séquestré dans un appartement comme ça. Et donc ils ont engagé une procédure de divorce.
Ouais.
À son insu, puisqu'il avait l'adresse chez eux. Donc le divorce a été prononcé. Et il a reçu donc le courrier l'informant du divorce chez eux.
Ouais.
Ils l'ont caché, ils lui ont pas dit. Alors il a contacté une association qui l'a un peu aidé. Il l'a emmené à la préfecture. Il a eu un titre de séjour comme la famille de conseil pendant 3 mois. Après les 3 mois, ils ont reçu le divorce de la femme qui a informé la préfecture pour annuler sa demande de titre de séjour.
Mmh.
Donc la préfecture a annulé sa demande et ils lui ont ordonné de quitter le territoire, un QTF. En septembre 2016. Sauf que lui, il n'a jamais quitté le territoire. Il a contesté cette décision.
Mmh.
Et puis, ça a encore une deuxième fois, en octobre 2017, un deuxième QTF. Il n'a pas quitté le territoire. Il a renouvelé une demande en changeant de statut pour demander le statut de salarié. Il a travaillé un peu dans quelques entreprises, signé des contrats à court terme.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer une petite pause et on vous reprend dans un instant, d'accord?
Pas de souci, bien sûr, ok. À tout de suite.
Retrouvez à votre service tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM. 9h, 10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Alors, Maître Serane, nous sommes en ligne avec Hadj. Hadj, vous êtes toujours là?
Là.
Voilà, alors on termine l'histoire, oui.
D'accord, donc on continue. Donc, en date du 22 novembre 2018, il a représenté une demande auprès de la préfecture de la Drôme, comme salarié.
on lui a délivré un récépissé qui l'autorise à travailler. Donc, durant tous ces trois mois, il a toujours travaillé. Il a eu des contrats, des petits contrats.
Mmh.
Il est inscrit à Pôle emploi. Il est suivi pour 2 ans par Pôle emploi. Et là, en date du 21 janvier ou 23 janvier, on identifie un QTF aussi. Un troisième
c'est la troisième,
QTF.
D'accord.
Un troisième QTF, oui, c'est ça.
Enfin, c'est pas, donc, là, entre nous, c'est pas surprenant. C'est-à-dire que même si c'est déjà... Ce qui est surprenant, c'est que la préfecture ait accepté une troisième demande.
Tout à fait.
À partir du moment où on vous a notifié une, deux obligations de quitter le territoire... et que ces obligations de quitter le territoire aient été contestées devant un tribunal ou pas, ou que la contestation se fait, mais que le tribunal confirme l'OQTF, il ne faut pas s'attendre à ce que demain, une troisième, quatrième, cinquième demande puisse aboutir. Donc, il n'y a pas de surprise hein, dans ce que vous me dites. Même si, entre guillemets, il a changé de statut. C'est-à-dire que c'est cette fois-ci en qualité de salarié.
C'est-à-dire que le statut n'est pas suspensif des...
Non, l'administration a la mémoire longue. C'est-à-dire que je vous refuse une régularisation en qualité de conjoint d'eux. Ce serait un peu facile si la parade consistait à dire bah tiens je suis plus conjoint d'eux mais j'ai décidé d'être salarié, j'ai décidé d'être étudiant, donc évidemment donc il y a pas de surprise dans ce refus. Il l'a contesté à nouveau cette décision ou pas?
Oui bien sûr, il avait 48 heures pour le faire, il l'a fait, donc il a envoyé un recours auprès du tribunal de Grenoble et donc l'affaire passera très prochainement le 5 mars.
Ouais. Bon, comme j'ai dit, il ne s'agit pas de vous démoraliser, mais entre nous, la probabilité pour qu'un tribunal accepte, elle est infinitésimale, franchement.
Pourquoi 48 heures? Pourquoi c'est pas un mois? C'est pas un mois d'habitude?
C'est un mois, on va dire, dans les dossiers classiques et traditionnels, sauf que ce monsieur s'est vu notifier déjà.
Ah oui, d'accord. Parce que d'habitude, c'est 30 jours pour prendre.
Ouais, 30 jours, mais là, quand on se voit notifier deux obligations de quitter le territoire et que l'intéressé est toujours sur place, par définition, les délais sont beaucoup plus courts. Donc voilà, ça me semble fortement compromis, franchement.
Bien, voilà ce que Maître Serran pouvait vous dire, Hadj. Pour tous ceux qui n'ont pas pu intervenir, ils sont nombreux. Maître Serran, rappelez s'il vous plaît votre numéro de téléphone.
Joignable au 06 62 58 59 64, 06 62 58 59 64.
Merci d'avoir été avec nous. Bon salon de l'agriculture, Maître Serran. Vous nous racontez ça avec beaucoup de plaisir vendredi prochain.
Complètement.
Voilà, bon week-end.
Merci.
Retrouvez à votre service tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.